Bonjour, Jean-Claude Issali pour la LEPO Délégation Territoriale Aveyron, donc LEPO Occitanie. Donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vais me centrer sur un petit oiseau que vous observez facilement à cette époque de l'année, qui vient souvent aux alentours de la mangeoire, même parfois dans la mangeoire. C'est le rouge-gorge familier. Donc, petit oiseau très, très facile à reconnaître et que tout le monde repère assez facilement. Penchons-nous donc sur le rouge-gorge familier, tellement familier que son nom scientifique français est bien le rouge-gorge familier. Alors c'est un petit oiseau qui est relativement restreint, relativement petit, hein, à peine la taille du moineau, 13-14 cm de long, 17, 18, 19 grammes, c'est très léger, une petite vingtaine de centimètres d'envergure. Il a une coloration plutôt brunâtre, mais ce qui le caractérise, c'est vraiment son plastron orange. En fait, on aurait peut-être dû l'appeler le orange-gorge. Mais bon, de loin, ça peut faire un petit peu rouge. Et cet orange, il l'a sur tout le poitrail, mais il l'a aussi sur la face. Donc, le orange lui vient un petit peu au-dessus du front, sur le devant des yeux, le dessous des yeux, bien sûr, toute la gorge et jusqu'au niveau du jabot. C'est vraiment ce qui permet de bien le reconnaître et de le reconnaître facilement. Il est posé sur des pattes fines, assez longues, voilà, qui lui donnent aussi une allure bien singulière. Son bec est fin, ça veut dire que c'est un insectivore, hein, qui va privilégier la recherche des insectes. Parfois, on dit que c'est le rouge-gorge, c'est un oiseau rond. Alors ça, c'est quand il ébouriffe bien ses plumes pour constituer son matelas isolant. C'est quand il fait froid, mais il peut être aussi très, 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 très mince. Dans son allure, il laisse souvent pendre un petit peu ses ailes, il relève un petit peu la queue. Par rapport aux autres passereaux de sa taille, c'est vrai que c'est assez particulier. Il se déplace au sol par des à-coups, il sautille rapidement, il s'arrête, il repart, il fait une rapide référence, il lève brièvement la queue, il re-avance. Des fois, paf, on le voit plonger son bec au sol et attraper une petite proie, et repartir. Il s'immobilise, il repart, voilà. Il sautille à nouveau. Donc c'est un oiseau très, 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 très vif. Il est assez largement distribué, puisqu'on le trouve dans toute l'Europe, toute l'Asie, au Moyen-Orient et au nord, le nord de l'Afrique, tous les pays du nord de l'Afrique. Donc tout le pourtour de la Méditerranée. La particularité, c'est que les populations du nord sont migratrices. Toute la frange moitié nord, je dirais, descend hiverner en France, en Espagne et sur le pourtour méditerranéen. C'est là qu'on a les populations hivernantes les plus importantes. Mais chez nous, en France, on a une population sédentaire. Même dans le nord de la France, il y a des oiseaux qui sont là toute l'année, sauf dans les parties les plus froides où ils peuvent descendre un petit peu. Et chez nous, l'hiver, on a à la fois les sédentaires et puis on a les hivernants. Donc on a une population assez importante. C'est un oiseau en fait assez commun. C'est ce qui permet à chacun de l'avoir repéré. Les milieux qu'il fréquente sont les milieux forestiers. Il se nourrit au sol. Vous ne verrez jamais un rouge-gorge au milieu d'une prairie ou d'une partie complètement stépique ou rase. Il faut absolument qu'il ait de la végétation assez importante, au moins des petits buissons, des bosquets, des arbustes, à proximité. Il n'est jamais très très éloigné de ce type de végétation. Par contre, l'hiver, il se rapproche facilement des maisons, des villages, des parcs et jardins. Bon, il peut y nicher aussi dans les parcs et jardins, il lui faut quand même des parties de sol un petit peu nu, avec des feuilles, où il peut fouiller, chercher, etc. Et sa nourriture, c'est printemps, été, automne, principalement des insectes et leurs larves. des arachnides, donc ça veut dire des araignées, des myriapodes, des mille-pattes, et bien sûr les vers de terre, toutes sortes de vers de terre. L'hiver, ben, il faut qu'ils se rabattent sur autre chose, hein, surtout quand il n'a pas trop le choix ou qu'il ne descend pas trop. Hein, donc on peut le voir s'attaquer à des petites baies, les baies des cotonéastères, les baies des ifs, des genévriers, des sorbiers. Et puis, c'est un oiseau qui peut venir aussi à la mangeoire, mais là, il va pas manger des graines de tournesol. Par contre, si vous avez des éclats de graines, quelques miettes de pain à l'occasion, mais c'est vrai, c'est pas le régime idéal. Mais ce qui aime beaucoup, ce sont les noix écrasées, les noisettes écrasées. Bon, moi, personnellement, toutes les noix qui sont un petit peu vieilles, ou quand je casse des noix, celles qui me plaisent pas trop, qui peut-être sont un petit peu rances, etc. Bon, tout ça, je les écrase vite fait et je les mets dans la mangeoire. Mais bon, c'est pas un oiseau qui va venir s'accrocher aux boules de graisse non plus. Hein. Voilà, je vous propose un petit intermède musical avec Creedence Clearwater Revival et nous nous retrouvons juste après pour parler du comportement de cet oiseau. Si vous nous rejoignez, donc vous écoutez À tire d'aile, l'émission de la LPO Aveyron, dont nous parlons du rouge-gorge familier. Alors on dit souvent le gentil rouge-gorge, le méchant épervier. En fait, le rouge-gorge n'est pas un oiseau très, très facile avec ses congénères. Et vous ne verrez jamais des groupes de rouge-gorge ou des troupes de rouge-gorge. Il ne supporte pas ses congénères. Il est extrêmement territorial. Et relativement agressif envers ses congénères, juste au moment de la reproduction où il va tolérer une femelle ou une femelle va tolérer un mâle. Voilà, mais c'est un oiseau donc plutôt solitaire et très territorial. Alors que ce soit pendant la reproduction ou sur sa zone d'hivernage, il défend son territoire. Et il a d'ailleurs des attitudes de défense avec le bec pointé vers le haut, vers le ciel, gonfle son plumage, il montre son plastron orange. Mais c'est quand même un oiseau intéressant par le fait qu'il est craintif, c'est vrai, mais une fois qu'il a, je dirais, un peu mesuré son voisinage et tout, il devient quand même relativement confiant. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle familier. Et c'est vrai que le jardinier peut facilement le voir à, je dirais, à quelques 50 cm de son chantier, sur le sol. Il vient même des fois se poser sur les outils. Il a quand même un côté extrêmement sympathique. On le repère souvent au cri qu'il fait, au petit cri qu'il émet. Alors qu'il émet un petit cri métallique, un petit tic, il peut l'émettre de façon très isolée, un tic par-ci, par-là, mais c'est souvent en petite série, comme on vient de l'entendre, des séries assez rapides. Et ça, ces petits cris traduisent souvent un peu son inquiétude. Si vous faites de la randonnée, quand on se balade dans les chemins creux, etc., en bordure de lisières, de bois, souvent on l'entend. Et bon, beaucoup ne savent pas quel est cet oiseau-là, mais c'est lui. Et parce que bon, il vous a entendu arriver, bon, il est un petit peu inquiet. C'est pas forcément qu'il ait vraiment peur, mais il est un petit peu inquiet. Et il émet un petit si aussi, un peu particulier. Il y en a eu un cri dans l'enregistrement. Mais voilà pour, un petit peu pour ses cris. Par contre, c'est un chanteur. Et un chanteur vraiment tenace parce qu'il chante quasiment toute l'année, alors avec peut-être des petites variations au printemps, mais on l'entend particulièrement à l'automne et l'hiver, ce qui fait qu'on l'a appelé souvent le rossignol d'hiver. Je vous fais écouter son chant en quelques secondes. Donc vous avez entendu le chant du rouge-gorge. Bon, il était avec intercalé les petits cris que je vous ai présentés tout à l'heure. Mais donc ce sont des notes assez sifflées, assez roulées, d'une tonalité assez élevée. Mais c'est relativement doux, c'est liquide, c'est ponctué d'arrêts. Parfois on qualifie ce chant un petit peu de nostalgique. Au niveau de la reproduction, donc... L'oiseau qui n'a pas quitté ses quartiers, qui a hiverné sur l'endroit où il se reproduit, bon, ben, il va passer de son chant d'hiver à son chant d'amour, je dirais, en quelque sorte, hein, bon, qui pour nous est à peu près le même, mais il y aurait quelques petites variations. Donc il a chanté l'automne, l'hiver, et puis il chante au printemps, et cela lui permet de se faire repérer par des femelles, et d'attirer une femelle sur son territoire. Donc il construit un nid, souvent très près du sol, dans un endroit souvent très touffu. Ça peut être dans des racines d'arbres, dans une souche, ça peut être, c'est souvent dans du lierre, hein. Ça peut être dans un trou de mur, mais un mur pareil, un petit peu végétalisé. D'ailleurs, il peut utiliser des nichoirs semi-ouverts ou des petites plateformes qu'on place justement contre un mur où il y a du lierre ou de la vigne vierge. Voilà, on dit qu'il est semi-cavernicole, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas forcément une cavité pour nicher, parce qu'il construit un nid en forme de coupe. Mais il peut positionner ce nid, effectivement, des fois dans un nichoir semi-ouvert. Quand un oiseau a déposé sa ponte, c'est 5, 6 ou 7 œufs qui sont d'un blanc bleuté. C'est que la femelle qui couve et c'est le mâle qui vient l'alimenter. Donc la femelle est bien couchée, ce qui fait qu'elle ne montre pas du tout son plastron orange. Donc on voit juste un petit peu de orange au-dessus du bec là, et qui va jusqu'aux yeux. Elle est vraiment très très couchée, très horizontale. Donc, comme le dessus de son dos, des ailes est brun, en fait c'est très mimétique. Et d'ailleurs, la femelle rouge-gorge, elle a extrêmement confiance en son mimétisme, parce que quand on a la chance de trouver un nid, bon, il vaut mieux pas les rechercher pour pas les déranger, mais en fait c'est un oiseau qui ne s'envole pas. Et on peut s'approcher à 50 cm, il couve, il bouge pas. Voilà, il a confiance dans son mimétisme, il pense qu'on ne peut pas le voir. Donc l'incubation dure 12 jours à peu près, et les jeunes, en moins de 15 jours, ils ont quitté le nid. Donc ça va très très vite. Les adultes vont les nourrir pendant à peu près 3 semaines, mais ils sont très très vite indépendants. Par contre, les jeunes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la description, les jeunes n'ont pas de plastron orange. Ils sont tout bruns, et ils sont mouchetés sur le devant. Mais on les reconnaît à l'allure, parce qu'ils ont vraiment l'allure des parents. Et dès l'automne, ils vont muer et mettre leur plaque orange. Donc comme ça va très vite, ben, la deuxième nichée, elle est très très fréquente. Donc ce sont des oiseaux qui, en général, les couples, sinon pas d'accident, font deux nichées d'affilée. Pas forcément dans le même nid, hein, même le plus souvent ils changent, mais dans le même secteur. Parce que leur secteur, n'est pas très, 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 très grand. La longévité, bon, ben c'est comme tous les petits oiseaux, c'est 3-4 ans. Mais avec le bagage, on s'est rendu compte que certains oiseaux pouvaient arriver à l'âge de 15 ans. Donc c'est le record quand même. Hein. Je reviens donc sur le côté migrateur de notre petit oiseau. En France, notre rouge-gorge est classé sédentaire, c'est-à-dire qu'il est là à peu près toute l'année. Mais en fait, il peut se déplacer pour l'hiver de quelques dizaines de kilomètres, voire quelques centaines, pour hiverner sur des zones au climat plus adapté à son régime. C'est pour cela qu'on note des déplacements plus importants les hivers rigoureux. De nombreuses sources montrent que la propension à migrer est plus répandue chez les femelles. Ainsi, la plupart du temps, en zone plutôt clémente, ce sont les mâles qui restent sédentaires et continuent d'occuper leur territoire et de défendre contre d'autres rouges-gorges. Mais les femelles vont plus facilement quitter le territoire, donc l'hiver, chez nous, nous devons voir principalement des mâles. Mais pas forcément, surtout en zone très, très douce. Dès qu'on dépasse le nord de la France, la proportion d'oiseaux migrateurs augmente très vite. Les rouges-gorges se situent donc sur toute l'Europe. Mais plus on va vers le nord et plus on va trouver donc des oiseaux migrateurs. Les rouges-gorges migrent la nuit. On savait que les couloirs migratoires sur le sud passaient de chaque côté des Pyrénées, donc côté Pyrénées orientales et côté Pyrénées atlantiques. Hein. Mais on s'est rendu compte, en fait, dernièrement, que beaucoup étaient capables de passer beaucoup plus haut et qui peuvent donc franchir les montagnes un peu dans n'importe quelle zone. Mais bien sûr, ce sont des quantités beaucoup plus faibles en nombre d'oiseaux que dans les Pyrénées orientales ou les Pyrénées atlantiques. Les oiseaux qui nichent donc dans le nord de l'Europe sont tous migrateurs. On trouve le rouge-gorge jusque dans les pays scandinaves et en Russie. Alors, les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, en fait, on les trouve dans les parties sud de ces zones-là. C'est à ce niveau qu'est la partie la plus septentrionale de leur territoire, la plus au nord de leur territoire. Et ceux qui nichent dans la partie ouest de la Russie migrent vers l'Europe de l'Ouest et passent donc en France pour rejoindre leur quartier d'hivernage, le plus souvent en Espagne et même jusqu'en Afrique du Nord. Plus les oiseaux nichent dans les contrées donc septentrionales, plus leur trajet migratoire s'allonge vers le sud. Donc en fait, ceux qui font les migrations les plus courtes sont plutôt les oiseaux belges, hollandais, etc., qui peuvent venir juste en France. Alors pour revenir un petit peu sur le côté Russie, en fait, il y a du rouge-gorge dans toute la Russie, et donc beaucoup plus vers l'Est aussi, mais ceux-là, ils vont migrer de l'autre côté de la Méditerranée, principalement. Donc nous, on a le couloir migratoire donc de l'Europe du Nord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à leur passage migratoire? Ben, je dirais qu'ils descendent surtout entre mi-octobre et mi-novembre. Donc c'est la période où il y a les plus fortes concentrations d'oiseaux migrateurs qui descendent donc vers l'Espagne ou l'Afrique du Nord. Et puis ils remontent fin mars, début avril, pour ce qui est donc pour revenir sur leur zone de reproduction. La population du rouge-gorge est relativement stable au niveau européen. Donc on considère que c'est un oiseau qui n'est pas en danger d'extinction. Cependant, en France, si on regarde les relevés qu'on a avec le suivi du stock, le suivi temporel des oiseaux communs, donc un programme qui est fait avec le muséum et qu'on utilise depuis des années et des années, donc on se rend compte qu'il y a une légère baisse des effectifs entre 2001 et 2018. Donc ça reste à confirmer, mais il est quand même un petit peu touché. Bon, il faut savoir que c'est un oiseau qui se cantonne principalement sur les zones un petit peu forestières, un petit peu bocagères, en lisière des bois, même si on peut le trouver dans les bois. On va le retrouver aussi au niveau des parcs et des jardins. Mais bon, c'est vrai que c'est comme s'il était quand même assez bocagé, il est quand même, et qu'il est insectivore. Bon, il est quand même touché un petit peu par les pesticides et autres pollutions. Voilà, donc c'est un oiseau assez commun, non menacé à court terme. Voilà. Mais cependant, il y a une préoccupation assez forte, surtout sur la partie est de la Méditerranée, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont tués illégalement en hiver, donc autour du bassin méditerranéen, et ce qui reste quand même préoccupant pour ce petit oiseau adorable. Donc ainsi s'achève cette émission donc à Tire-d'Aile consacrée exclusivement au rouge-gorge familier. J'espère que vous observerez maintenant ce rouge-gorge dans votre jardin ou auprès de votre maison, peut-être avec un autre regard. À très bientôt. Thank you.